Amanda, dis-moi, concernant le coronavirus, des mesures de protection pour tous. Alors, vous avez décidé de lancer cet appel aux autorités fédérales. À quel moment et pourquoi ?
Alors, ça s'est fait très vite. L'appel, on l'a lancé mercredi, donc ça fait deux jours. C'est mardi soir qu'on a décidé en fait de le lancer parce que depuis les annonces de vendredi dernier du Conseil fédéral, ben voilà, tout le monde s'est rendu compte qu'on est face à une crise sanitaire quand même exceptionnelle, qu'il va falloir protéger tout le monde, que tout le monde va devoir faire aussi, devoir changer passablement sa vie pendant quelques semaines pour permettre de combattre ce virus. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, les autorités fédérales d'asile continuaient de fonctionner comme si de rien n'était. Donc, on a commencé à entendre des témoignages de personnes dans les centres, par exemple, qui continuaient d'être convoquées à des auditions par le secrétariat d'État aux migrations. Donc une audition dans la procédure d'asile, il faut savoir que ça regroupe plusieurs personnes. Donc il y a le requérant d'asile, il y a l'auditeur du SEM, il y a toujours un ou une interprète, un procès-verbaliste et, dans les nouvelles procédures, un juriste qui était avant un héroé. Donc il y a de toute façon 5 personnes dans des petites salles exiguës où les recommandations de l'OFSP ne peuvent pas être respectées, donc les fameux 2 mètres de distance, etc. C'est des auditions, alors les entretiens Dublin, ils durent environ une heure, mais les auditions d'asile, elles durent plusieurs heures, donc ça peut même être toute la journée. Et en plus, ça implique le déplacement de toutes ces personnes, alors qu'on nous dit, on nous répète toutes les heures à la radio, ne sortez pas chez vous, à moins que ce soit vraiment nécessaire, etc. Donc là, on a commencé à se dire, non, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, ben après, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était vraiment un manque de prise de conscience dans ce domaine-là spécifiquement, alors que même si effectivement les requérants d'asile sont pas une population en tant que telle plus à risque qu'une autre, le fait qu'ils vivent dans des hébergements collectifs,
et oui,
qu'ils dorment dans des dortoirs à plusieurs, qu'ils aient des espaces communs où ils se retrouvent tous, qu'ils partagent des salles de bain en commun, de facto, c'est des lieux qui sont plus à risque que d'autres. Donc oui, ils ne sont pas plus à risque, mais quand les contaminations ont recommencé, ça peut aller très vite dans un centre. Alors, je précise qu'il y a des cantons où il y a des mesures qui sont prises, hein, ils ne font pas rien, mais au niveau des autorités fédérales, on dirait vraiment qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et dans les centres fédéraux, on est vraiment inquiet de la situation sanitaire dans les jours et les semaines à venir, parce qu'on attendait justement, peut-être aujourd'hui à la conférence de presse du Conseil fédéral, une annonce d'annulation des auditions d'asile, et rien n'a été dit. Donc, c'est quand même assez inquiétant, mais c'est le point principal pour lequel on a décidé de lancer cet appel. Mais après, dans l'appel, on a aussi rendu les autorités attentives à un certain nombre d'autres choses qui concernent pas forcément les requérants d'asile, mais aussi les personnes migrantes. Par exemple, pour les personnes sans papier, il faut s'assurer qu'elles aient accès aux soins. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour des personnes sans statut légal d'avoir accès aux soins? Ça veut dire qu'on doit leur garantir une confidentialité, qu'elles ne seront pas dénoncées aux autorités migratoires. Ça veut dire qu'on doit leur garantir aussi la prise en charge des frais médicaux, parce que souvent elles n'ont pas d'assurance maladie, en tout cas beaucoup n'ont pas d'assurance maladie. Et puis ça veut dire qu'on doit aussi leur garantir qu'elles ne seront pas contrôlées leurs papiers à l'entrée de l'hôpital, quoi.
Mmh. Et lors des dépistages, donc, par exemple.
Et lors des dépistages, exactement. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de choses. L'appel est assez long parce qu'on a essayé d'être le plus large possible on a vraiment regardé ce qui concerne les sans-papiers, ce qui concerne les requérants d'asile, ce qui concerne, oui, les personnes étrangères en général, puisque maintenant les guichets publics sont fermés. Qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes dont les permis de séjour expirent maintenant? Mmh. Elles doivent normalement les faire renouveler. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Donc nous, on demande un renouvellement automatique. On demande aussi la suspension des procédures de renvoi, puisque il y a maintenant toutes les frontières se ferment. C'est très peu probable qu'il y ait des renvois qui se fassent ces prochains temps. Donc les personnes ne doivent pas être détenues dans des prisons. Ça fait aucun sens. D'ailleurs, la prison de renvoi de Bâle est quasiment vide maintenant, hein. Ils ont entendu cette revendication et ils ont libéré les personnes. Donc voilà, il y a toute une série de points. Qu'on a été un peu forcé de mettre en lumière, parce que il semblait que c'était pas vraiment pris en compte de manière générale, en fait.
Ouais. Alors voilà, ces revendications, comme tu l'as dit, elles sont nombreuses et elles sont légitimes avant tout. Ça fait maintenant 2 jours que l'appel est parti. Avez-vous eu déjà des retours ou des personnes qui se sont intéressées à cela?
Alors déjà, il y a déjà 35 organisations qui l'ont signé. Ça allait très vite. Il y a énormément de gens qui ont laissé des commentaires aussi sur notre site. Donc, on sent qu'il y a vraiment... Peut-être qu'après, on pourrait parler de ça aussi. Il y a vraiment une attente des gens aussi, des activistes, de faire quelque chose malgré le confinement à la maison. Donc, on sent que les gens sont hyper réactifs. Donc, Amnesty International a aussi publié un communiqué de presse. Enfin, il a aussi écrit au Conseil fédéral pour lui demander de suspendre la procédure d'asile, suivi ensuite par l'OSAR, l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés. Et puis, il faut savoir que déjà, avant notre appel, il y avait déjà des organisations locales qui avaient écrit à leurs autorités cantonales pour justement demander la même chose. Donc en fait, maintenant, avec l'appel qu'on a fait, ça a aussi donné des arguments à beaucoup d'autres pour faire ces démarches en fait au niveau cantonal qui sont aussi très importantes.
D'accord.
Par contre, au niveau des autorités, malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas bougé.
Ok. On ne peut que formuler le souhait que ça commence à bouger le plus rapidement possible, parce qu'évidemment ce sont des situations de personnes qui sont déjà vulnérables et évidemment ça vient peser encore plus. Est-ce que, voilà, tu l'as dit toi-même, qu'en est-il des personnes qui vous soutiennent autour justement de ce bassin de personnes qui peut-être en ce moment sont un petit peu plus en retrait avec ces questions de confinement et de travail à domicile? Y a-t-il là moyen peut-être de les mobiliser par contumace, bien entendu, je sais pas, par une pétition en ligne ou par d'autres éléments auxquels vous penseriez déjà?
Oui, alors bon, déjà, on invite tout le monde à partager cet appel sur les réseaux sociaux, à le commenter aussi pour montrer vraiment qu'il y a un soutien large pour ces revendications. Le partager un maximum, ça c'est déjà une première chose à faire. Ensuite, effectivement, on pourrait réfléchir à une pétition en ligne si rien ne bouge, ça c'est clair. On invite aussi les personnes à contacter, disons, les groupes locaux, à s'adresser à leurs autorités cantonales. Je pense que dans une situation comme celle qu'on vit maintenant, il faut éviter de faire des actions qui pourraient vraiment perturber, dire, le l'état entre guillemets d'urgence dans lequel on vit. Donc, on va pas lancer des choses du style écrivez tous une carte postale à Simonetta Sommaruga. Enfin, ça c'est pas forcément le meilleur moment pour faire ce genre de choses. On veut pas non plus perturber ce qui se met en place, parce qu'il y a aussi des mesures qui sont prises quand même dans ce domaine au niveau des cantons. Mais par contre, oui, nous, on essaie vraiment de mobiliser les gens, surtout sur les réseaux sociaux et puis en ligne. C'est un peu maintenant, on doit un peu se mettre à la lutte 2.0. C'est comme ça qu'on le dit. On organise des choses en ligne, etc. Mais après, on s'est aussi dit que quelque chose d'intéressant pendant cette période pour les gens qui sont solidaires, c'est aussi de profiter, on va dire, un peu de cette phase de presque un peu de calme. Enfin, je sais pas comment toi tu le vis, mais moi, ça me change énormément de travailler à la maison, on est dans un autre rythme, on a plus de temps, etc. Et donc, on invite aussi tout le monde à profiter pour s'informer, pour lire, pour écouter des conférences en ligne. On en a déjà réalisé une avec Droit de Rester Neuchâtel mercredi soir, qu'on peut trouver sur la page Facebook de Droit de Rester Neuchâtel ou sur la page de Solidarité Sans Frontières. Et puis, on va publier aussi beaucoup de textes un peu plus approfondis sur certaines thématiques, par exemple sur Frontex ou sur d'autres aspects de la politique d'asile, de la politique migratoire, pour que les gens puissent profiter de ce temps-là aussi pour s'instruire, en fait. Parce que se former, c'est pas toujours possible dans les rythmes qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. On va être beaucoup plus, on va envoyer plus de newsletters, on va être plus vraiment actifs sur les réseaux, en espérant vu que les gens sont très demandeurs aussi, et en espérant que ce soit utile pour les militants, de qu'on puisse mettre quand même à profit d'une certaine manière ces semaines pour progresser.
Ouais, voilà. C'est une très bonne idée, ça. Effectivement, le fait de prendre ce temps-là pour soi, ça veut dire également, façonner un esprit critique, aller au-devant, justement, de ces informations, cette désinformation qui régnait un petit peu. Et c'est vrai que souvent, on dénonce cette temporalité dans laquelle les médias mainstream sont. Là, on peut vraiment s'en extraire.
Bah exactement, puis c'est aussi pour nous, c'est aussi intéressant de se dire que, enfin je donne un exemple concret en fait, là j'ai mon collègue qui vient de il y a une consultation en cours en ce moment sur l'agence Frontex, parce que le Parlement suisse va devoir reprendre voilà des changements qu'il y a eu au niveau de Frontex au niveau européen. Donc il y aura un vote au Parlement et avant ça ils font donc une consultation. Et donc mon collègue a écrit 4 pages en allemand sur toute l'histoire de Frontex, etc. Pourquoi on recommande au Parlement de rejeter ces changements. Et en temps normal, nous on répond à nos consultations que en allemand parce que c'est personne les lit à part les autorités. Donc, mais là par exemple, ça me motive de me dire ok, je vais traduire ce texte qui est assez costaud parce que on le transmettra à nos membres et maintenant ils auront peut-être du temps et de l'intérêt pour le lire. Donc on fait un effort vraiment pour donner des contenus un peu plus conséquents aussi parce qu'on pense que c'est vraiment le bon moment.
Dis-moi, y a-t-il, alors j'imagine que oui, mais je pose la question, y a-t-il des formes de coalition qui s'installent ou que vous pourriez appeler de vos voeux?
Oui, nous, en fait, ça c'est un peu la caractéristique première de Solidarité sans frontières, c'est que nous, on travaille toujours avec d'autres en fait. Déjà, Solidarité sans frontières, beaucoup de nos membres sont des organisations. On peut pas dire que Solidarité sans frontières est une organisation fêtière. Ça marche pas comme ça dans le mouvement, dans ce mouvement-là. Mais Solidarité sans frontières, on essaie vraiment de coordonner les organisations régionales dans le cadre d'un projet suisse en fait, au niveau national. Donc ça, c'est un peu notre ADN, on va dire. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec des organisations qui sont pas membres de Solidarité sans frontières. C'est comme le cas, par exemple, d'Amnesty. Sur certaines choses, on peut travailler avec eux. Mais c'est aussi les syndicats, c'est les partis, c'est d'autres organisations qui veulent pas forcément être membres, mais qui font un travail similaire. Et puis, donc dans ce sens-là, oui, on a déjà créé des coalitions autour de la question de Dublin, par exemple. On lutte dans le cadre de l'appel Dublin contre les renvois Dublin avec d'autres organisations, alors des grosses comme Amnesty, mais aussi des plus petites comme Solidarité TAT de Genève ou les droits de rester. Maintenant, on a mené toute une campagne aussi depuis un an et demi environ contre la criminalisation de la solidarité. Où là, il y a vraiment aussi tout un intérêt à cette question, par exemple dans des milieux plus religieux, proche des églises. Il y avait aussi un volet plus institutionnel puisqu'il y a eu une initiative parlementaire qui avait été déposée par la conseillère nationale, maintenant conseillère aux États, Lisa Mazon. Donc on est toujours dans des configurations comme ça. Nous, on bosse jamais juste pour notre pomme, ça nous intéresse pas. Le but, c'est vraiment d'élargir au maximum le mouvement. Après, les gens qui nous écoutent, ce que je les invite à faire, c'est déjà de considérer Solidarité sans frontières comme une plateforme au niveau national dans laquelle leurs activités à eux peuvent aussi faire du sens. Dans le sens que nous, on organise des choses pour mettre les gens en réseau, pour avancer ensemble dans notre compréhension de la politique migratoire, etc. Mais on remarque que souvent, c'est pas forcément facile d'amener les gens à adhérer à ce qu'on propose, en fait. Chacun veut faire sa petite soupe dans son coin. C'est très suisse, hein. C'est très suisse. mais bon, ça fait pas toujours du sens parce que plus on bosse ensemble, plus on est fort. Nous, on n'essaye pas du tout de masquer les différences, de dicter une ligne comme ça. On est vraiment hyper ouvert. On bosse avec vraiment toute une palette d'organisations très différentes. Mais c'est important quand même qu'après, de la part des organisations de base, il y ait aussi cette volonté de former un tout avec les autres. Et pas juste d'avoir raison dans son coin, dans son petit truc, quoi. Donc ça, c'est la base pour que le mouvement devienne plus fort, je trouve. C'est vraiment de renforcer aussi ces liens. Et puis de se mettre aussi d'accord peut-être sur des priorités, sur des thèmes qui sont vraiment hyper importants qu'on traite maintenant, sur d'autres qu'on peut peut-être laisser pour plus tard. Reprendre ce que font les uns et les autres. Nous, on reprend beaucoup ce qui se fait à la base. Toute la campagne sur Dublin, c'est un bon exemple, je trouve, de comme ça a fonctionné. C'est-à-dire Solidarité sans frontières, ça fait très très longtemps qu'on est opposé à Dublin. On avait d'ailleurs mené une campagne pour le non à l'époque où on avait dû voter en Suisse. C'était une des seules organisations de gauche au niveau national qui avait lutté contre l'adhésion de la Suisse à Schengen-Dublin avec des arguments de gauche, contrairement à l'UDC. Et donc on a toute une, je sais pas, c'est un peu prétentieux de dire une expertise, mais en tout cas une connaissance de ce sujet, historique aussi. Et quand on a vu que dans le canton de Vaud, il y avait tout ce mouvement contre les renvois Dublin qui était en train de se mettre en place, on a tout de suite collaboré avec eux. Il se trouve que le droit de rester Lausanne était représenté aussi dans notre comité, donc on a tout de suite su que ça se faisait, etc. Et on a vraiment essayé de faire remonter ça au niveau national, avec une pétition au niveau national, avec des interventions au niveau du Parlement, avec vraiment une campagne qui pouvait aussi mobiliser des organisations dans d'autres cantons. Et c'est un peu comme ça que ce Dublin est devenu une préoccupation au niveau, enfin, dans toute la Suisse, quoi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et voilà, donc, pour partager avec nous, que les organisations partagent avec nous ce qu'elles font, nous, on partage aussi avec elles ce qu'on fait, puis on essaye d'avancer ensemble de cette manière-là.
Extrêmement intéressant. Je te remercie beaucoup, Amanda. Écoute, on arrive doucement au terme de cet entretien. Si tu as encore 3 minutes, j'aurai encore une ou deux petites questions. Qu'est-ce que tu en dis?
Oui.
Alors,
Très bien.
Ok, alors on y va. Alors voilà, tu as donné déjà quelques pistes pour que les personnes puissent se mobiliser, et notamment celle de se contre-informer, en tout cas d'aller, voilà, de prendre le temps de revenir sur des sujets complexes et qu'il est avisé de, comment dire, de décrypter comme il le faut. Y a-t-il d'autres modalités avec lesquelles les personnes pourraient composer pour justement se mobiliser depuis chez elles? Parce qu'il y a, alors on va le dire, sur le site dont je répète l'adresse, c'est www.sosf.ch, il y a l'appel que l'on peut commenter également. J'ai vu qu'il y avait tout plein de commentaires d'ailleurs, très très sympa sur la page, sur votre page internet.
Alors, pour les personnes qui sont en contact avec soit des requérants d'asile, des réfugiés, des sans-papiers, enfin des gens qui sont en situation de précarité au niveau de leur séjour, si elles ont des informations sur ce que ces personnes vivent, si elles sont en contact avec ces personnes, qu'elles peuvent leur demander, par exemple, comment ça se passe dans ton centre, vous êtes combien dans la chambre, est-ce qu'il y a déjà eu des cas, est-ce que vous avez eu accès aux soins, est-ce qu'il y a des personnes contaminées, est-ce que ces personnes ont eu accès aux soins, enfin, tout ce que vous pouvez nous transmettre comme information concrète sur ce qui se passe sur le terrain, alors on est preneurs. Je précise qu'il faut vraiment pas se mettre en danger en allant forcément sur place, mais avec les téléphones, on peut faire pas mal de trucs. Ce qui est très précieux, c'est quand la personne concernée, souvent on a des dénonciations de situations pas correctes qui se passent dans un centre, mais souvent la personne concernée ne veut pas témoigner. Alors on peut le comprendre, mais c'est vrai que pour pouvoir vraiment après faire remonter ça et puis faire pression sur les autorités en disant dans ce centre il s'est passé ça, etc., c'est encore mieux, évidemment, si on a des personnes qui sont prêtes à dire « Ok, ça s'est passé à tel moment, je suis prête à donner mon nom, etc. » C'est pas toujours possible. On est d'accord. De toute façon, l'information, elle est précieuse. Mais en fait, de transmettre ces informations, c'est super important maintenant. S'il y a, par exemple, des témoignages de personnes qui ont dû se rendre à une audition d'asile en ce moment, depuis une semaine, et qu'elles ont dû être auditionnées ou qu'elles ont dû être auditionnées sans la présence de leur juriste parce que les juristes ne vont plus ou toute situation de ce genre, c'est vraiment important de nous les transmettre. D'ailleurs, je vous donne notre adresse email, c'est secrétariat, écrite à l'allemande, secrétariat@sosf.ch. J'espère que j'ai dit correct.
Oui, puis je mettrai ça. De toute façon, je mettrai le lien au libellé.
Et puis, je donnerai mon numéro de téléphone aussi. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, je conseille aussi aux gens de s'adresser aux organisations locales. Parce qu'en ce moment, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau de la solidarité. Et peut-être que vous pouvez faire quelque chose aussi de plus concret que ce que j'ai dit avant. Mais là, il faut regarder vraiment avec les organisations locales. Et je conseille d'aller vers ce qui se fait déjà, en fait. C'est toujours le conseil que je donne, c'est d'aller renforcer ce qui se fait déjà plutôt que de forcément lancer. C'est pas le moment maintenant pour lancer la nouvelle super organisation. Non, c'est aller voir ce qui se fait. Il faut contacter ces organisations, voir de quoi elles ont besoin. si vous pouvez les aider. Je sais qu'il y a, il y a aussi des situations. Voilà, les gens maintenant sont mobilisés vraiment pour combattre ce virus. Et peut-être qu'il y a, il y a encore des choses à faire pour donner des coups de main concrets, sans se mettre en danger et sans mettre en danger les autres.
Qu'en est-il de l'agenda, de votre agenda? Y a-t-il des événements charnières qui arrivent, auxquels vous êtes préparés, ou y a-t-il des choses que vous allez proposer dans ces prochains temps?
Alors nous, notre agenda, il est complètement chamboulé maintenant à cause, à cause de la pandémie. En fait, on est en train de faire depuis un peu plus d'un an une observation de la nouvelle loi sur l'asile, enfin de la restructuration du domaine de l'asile, donc dans les centres fédéraux. Et puis on va publier un rapport prochainement, mais voilà, il était prévu pour fin mai, mais maintenant ça complique un peu les choses, ça se monte plus tard. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc c'est la mise en place de ces nouveaux centres. Et puis ça fait maintenant un an qui fonctionne, les nouvelles procédures, etc. C'est vraiment un moment charnière maintenant pour faire un peu le bilan de cette dernière année au niveau de l'asile. On est en train de préparer le lancement d'une campagne pour l'accès à l'éducation pour les personnes exilées. Et là aussi, je ne sais pas si on pourra tenir l'agenda, mais normalement, on allait lancer la campagne publiquement au mois de juin, avec une pétition, là, pour le coup, qui demande un certain nombre de changements pour garantir une égalité dans l'accès à l'éducation pour tous et toutes. Mais là, de nouveau, il faudra vérifier notre site régulièrement pour au niveau des agendas. Et puis, dans l'immédiat, je peux pas vous le dire, mais soyez attentifs sur notre site. Je pense qu'il y aura plusieurs choses ces prochains temps qui vont se mettre en place, surtout au niveau d'Internet, quoi.
D'accord. Donc voilà, la référence, c'est www.sosf.ch. Êtes-vous également présent sur les réseaux sociaux, ou bien c'est vraiment le site Internet qui centralise tout?
Alors, on a une page Facebook, Solidarité sans frontières, sur Facebook. On a un compte Twitter aussi. Et puis, maintenant qu'on est en confinement, on est en train de réfléchir à ouvrir un compte Instagram. Ah, voilà. Ouais. Mais là, pour le coup, moi, j'y connais rien, donc je vais devoir apprendre.
OK.
Et par contre, bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est possible aussi, c'est de s'inscrire à notre newsletter. Donc en allant sur le site internet, vous trouverez il y a un onglet pour s'inscrire à la newsletter, et là on envoie vraiment beaucoup d'informations par la newsletter, surtout en ce moment. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de rester informé de ce qui se fait. Mais évidemment, la page Facebook aussi, ça, c'est un bon moyen d'être informé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a dû annuler plein d'événements qui étaient prévus, puis de manifs, parce que effectivement, il y avait une manif mercredi passé qui était prévue avec Droit de rester à Neuchâtel pour dénoncer la situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Donc là, finalement, on a fait une mobilisation en ligne. À la place de ça, on a demandé aux gens de faire des selfies avec un panneau, avec un message, et puis ça a très bien fonctionné. Puis après, on a fait une conférence en ligne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient prévues comme ça, qui vont être remplacées par d'autres types d'actions. Donc soyez attentifs, les canaux là que je vous ai donnés, c'est en général suffisant pour savoir ce qui va se passer. Puis prenez contact avec les organisations de votre région, parce que peut-être qu'ils font aussi des trucs.
Et oui. Et alors voilà, sur le site, il y a effectivement un onglet Soyez actifs, dans lequel on peut aller voir s'inscrire à la newsletter, on peut devenir membre ou faire un don également. Et puis il y a une rubrique sur le site, là on peut pas la rater, agenda, où on trouve notamment le flyer de l'action en ligne dont tu viens de parler. On arrive au terme de l'entretien. De quoi est-ce que Solidarité sans frontières aurait-elle besoin? Est-ce que vous aurez besoin de bénévoles qui vous rejoignent? Est-ce que vous aurez besoin également de fonds, d'argent? Est-ce que c'est un petit peu des deux?
Alors, nous, on a toujours besoin de tout, en fait. Alors, pour dire un peu plus clairement, devenez membre de Solidarité sans frontières, ça, c'est pour nous, c'est vraiment utile. S'abonner à notre bulletin, c'est des cotisations qui sont pas très élevées, mais c'est vraiment important pour nous d'avoir un maximum de gens avec qui on est en contact, en fait, régulièrement. C'est possible de faire des dons aussi, ça on a toujours besoin. Et puis s'engager comme bénévole, comme activiste plutôt, ça c'est également possible. Après, nous, on n'est pas soit on a des bénévoles qui nous aident dans le travail vraiment de bureau. Alors ça, c'est un gros investissement, donc faut vraiment être prêt à faire des traductions, à écrire des textes, à écrire des trucs pour le bulletin, etc. Donc on est super preneur, mais c'est quand même un engagement important en termes de, c'est pas juste une heure par-ci par-là, quoi. Soit alors vous pouvez vous mobiliser pour des événements ponctuels qu'on fait. Et là, on cherche, quand on organise une grande manif à Berne avec des milliers de personnes, là on a toujours besoin d'une grande équipe de bénévoles. Donc si vous voulez vous engager, vous pouvez nous écrire, nous contacter en disant un peu justement selon quelle modalité, qu'est-ce qui vous qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme type d'engagement. Mais c'est vrai que nous, on n'organise par exemple pas des cours de langue pour les migrants. Là, il faut contacter des organisations locales qui font ce genre de travail. Nous, on est vraiment une organisation politique. On fait des campagnes, on fait des événements politiques, on fait des manifs, on fait des prises de position. Donc, c'est vraiment plus un travail de ce type-là qu'on peut proposer à des gens qui veulent s'engager avec nous.
Également, justement, tu parlais d'Instagram où tout ce travail sur les réseaux sociaux, ça peut être également une fonction qui appellerait de l'aide.
Oui, surtout pour relayer en fait. Ouais. Surtout pour relayer ou pour faire des traductions, parce que souvent nous on est assez réactifs au niveau des textes parce qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Par contre, quand on aimerait bien, par exemple, publier plus de choses en italien ou bien pouvoir plus rapidement faire des traductions de petits textes ou de choses comme ça, ouais. Mais ouais, effectivement. Après, nous, on est très ouvert en fait aux gens qui viennent avec leurs compétences à eux. En fait, nous on est une petite équipe qui fait tout. Donc, dès que quelqu'un vient en disant moi je sais faire ça, j'aimerais le faire avec vous, ben si la personne est prête à tenir un peu sur la durée, alors on trouve un moyen qu'elle puisse le faire.
Oui, et puis il n'y a pas besoin de se rendre à Berne, on peut le faire par ordinateur interposé.
Voilà, il y a beaucoup, exactement, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites depuis la maison, n'importe où, quoi. Ouais.
Très bien.
Exactement.
Bon, eh bien, écoute, à moins que tu aies une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre, si c'est le cas.
Ce serait peut-être juste dire un mot sur la situation en Grèce, quand même.
Oui.
Maintenant notre appel il touche que la Suisse, dans le sens où on a vraiment essayé de revendiquer des mesures que les autorités suisses peuvent mettre en place vraiment d'un claquement de doigts, on va dire, du jour au lendemain. Mais en fait quand cette pandémie est devenue vraiment grave en Suisse, nous on était en plein dans la question de la Grèce. Et je pense que maintenant, il faut vraiment avoir au moins une pensée, parce que c'est la moindre des choses pour ces 40 000 réfugiés qui sont bloqués sous les îles de la mer Égée, dans des conditions sanitaires vraiment déplorables, désastreuses. Ça fait longtemps qu'on exige l'évacuation de ces camps et puis la répartition de ces personnes dans différents pays européens, dont la Suisse. Maintenant, on voit vraiment à quel point cette politique d'asile, cette politique d'exclusion, de mise en camp des personnes, on savait qu'elle était inhumaine, mais maintenant on voit aussi à quel point elle est absurde d'un point de vue général, en fait, du point de vue du bien-être de la société. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passerait maintenant si l'épidémie se répandait dans un des camps, le camp de Moria à Lesbos, où 20 000 personnes vivent dans des installations qui sont prévues pour 2000. Voilà, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, je pense cette crise sanitaire, ça nous rappelle qu'en fait, ce qu'on fait pour les autres, entre guillemets, on le fait pour tous. Et le Conseil fédéral nous le répète jour après jour maintenant, ça l'arrange. Mais en fait, ça, c'est vraiment la boussole qu'on devrait garder en permanence.
Mmh. Et on reprend peut-être pour en terminer l'aphorisme que vous avez utilisé pour l'action en ligne. C'est droit à la santé et à la vie pour toutes et tous. C'est vraiment, voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, comme tu le dis, les situations que connaissent sur les îles de Lesbos et en Grèce, c'est catastrophique. Humainement, c'est juste inaudible, quoi.
Et puis voilà, et puis c'est ce qui est voulu, hein. Donc c'est vraiment une politique de dissuasion qui est menée par l'Union européenne. Ça, faut vraiment le rappeler. C'est pas les Grecs sont débordés, il y a trop de monde dans les îles. Non. Ça, c'est une stratégie qui est vraiment décidée à Bruxelles, et puis c'est la Grèce qui l'applique. Mais c'est vraiment voulu. Donc ça veut dire que si c'est voulu, c'est pas une fatalité. On peut changer ça. Et là, il faut vraiment aussi prendre position là-dessus, en parler autour de soi, s'informer sur ce qui se passe là-bas. Parce que maintenant, évidemment, on demande comme Médecins sans frontières, on demande l'évacuation immédiate de ces camps. Mais le problème aux frontières de l'Europe va continuer, au-delà du corona et ce qu'on vit maintenant. Et c'est vraiment une urgence à tout point de vue, politiquement et au niveau humanitaire aussi.
Ouais. Et là, vous avez mis le lien de la conférence qui s'est tenue. Après, donc, les personnes qui nous écoutent, elles peuvent retrouver ça.
Oui, alors elles peuvent retrouver le lien vers la conférence qu'on a donnée justement avec Charles Heller, qui est membre de Migre Europe, et c'est un chercheur spécialisée dans les questions des frontières européennes. Et donc lui, il connaît très bien la situation en Grèce. Et voilà, sa partie de la conférence est vraiment super intéressante. Je conseille à tout le monde d'aller l'écouter si vous avez un peu de temps.
Et ça tombe bien, du temps, on en a. Enfin, cette excuse-là, elle ne tient plus, quoi. Très bien, très bien. On s'arrête là pour aujourd'hui, Amanda ?
Super.
Écoute, alors, je te remercie beaucoup. Donc, on le rappelle, Amanda, tu es secrétaire générale de Solidarité sans frontières, une organisation politique dont le siège est à Berne, mais qui agit effectivement beaucoup via son site internet et également les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup pour tout le travail qui est abattu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, avec beaucoup de plaisir. On peut espérer que les prochaines communications du Conseil d'État pour Genève et le Conseil fédéral pour la Suisse, eh bien, aille dans le sens de tout ce que l'on vient de dire.
Exact, je pense que ça peut arriver. Hein. Ça tout change très vite en ce moment, et si on maintient la pression sur le SEM, à mon avis, il pourrait y avoir des changements assez rapidement. Il faut continuer à diffuser l'info, continuer d'en parler, et puis on espère que les autorités vont prendre conscience vraiment de la nécessité de changer là, de tout arrêter en fait.
Donc restez bien en alerte, et pour rester en alerte, eh bien, un site internet, c'est www.sosf.ch. Merci Amanda.
Merci à toi,
ciao,
William.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.